Note au lecteur. Ainsi se termine cette nouvelle aventure, éprouvante, il faut le dire, pour ces personnages qui m'accompagnent depuis de nombreuses années. J'espère que vous me pardonnerez de les avoir malmenés à ce point encore une fois. Je ne suis pas un maître des destinées dociles, mais j'ai le sentiment que Franck, Lucie, Nicolas et Pascal ressortent grandis, plus forts et finalement en paix avec eux-mêmes. La mort faisait partie des grands thèmes que je voulais traiter depuis longtemps, au même titre que la violence, l'évolution ou encore la mémoire déjà abordée dans des tomes précédents. Mais plusieurs points m'avaient auparavant empêché de me lancer dans ce vaste chantier. D'une part, la noirceur du sujet. Un roman policier intégralement consacré à la mort, ce n'est pas ce qu'il y a de plus gai, c'est le moins que l'on puisse dire. Je devais me sentir prêt à prendre un pari fou, pouvoir procurer le plaisir de la lecture, malgré l'omniprésence de la grande faucheuse qui, forcément, allait sans cesse nous ramener à notre condition de mortel. Le second obstacle était que, pour rendre le sujet le plus percutant possible, il devait toucher mes personnages au plus profond de leur âme. La mort devait les heurter, les engloutir, atteindre les fondations mêmes de leur groupe si solide. J'en suis rapidement venu à la conclusion qu'il fallait que l'un d'entre eux meure. Choix terrible pour un auteur, vous l'imaginez, qui doit interrompre la destinée d'un être de papier auquel il a apporté un grand soin à insuffler la vie, comme le docteur Frankenstein avec sa créature. Ne pensez pas que nous, romanciers, sommes des êtres sans cœur. Arracher une vie, aussi fictive soit-elle, est toujours une épreuve, et nous mesurons l'impact qu'elle aura sur le lecteur. Mais si cette décision est finalement prise, c'est parce qu'elle va permettre de mettre en place une force émotionnelle qui intensifiera l'incroyable voyage proposé par le livre. Un roman qui ne provoque ni colère, ni tristesse, ni angoisse, ni rire serait horriblement fade. La mort et l'auteur de romans policiers entretiennent un rapport particulier et privilégié. Ils ne peuvent s'ignorer l'un l'autre. Ils avancent ensemble dans le récit. Après 20 ans à côtoyer la faucheuse, il était enfin temps de lui accorder la vedette, la laisser prendre l'ascendance sur le romancier, accaparer chacune de ses pages et nous entraîner dans sa danse macabre avec son grand sourire trompeur, comme elle sait si bien le faire. Ce qui m'a décidé à sauter le pas est la découverte, un jour, au gré de mes recherches, de ces cas de femmes enceintes déclarées en mort cérébrale, mais qu'on pouvait néanmoins faire accoucher. Je ne comprenais pas. Comment un bébé pouvait-il continuer à grandir dans le ventre d'une femme décédée? Comment pouvait-il naître d'une mère qui n'était plus là pour l'accueillir? Cela défiait à la fois mon imaginaire de romancier et l'image même que je me faisais de la mort. J'ai alors lu les histoires de ces tragiques destins avec sidération et me suis mise à évoluer sur l'incroyable frontière entre le monde des défunts et celui des vivants, avec ces questions centrales qui sont au cœur du livre. Où se situe le point de non-retour? La mort du cerveau signifie-t-elle la disparition totale de l'être? Je tenais là l'angle d'attaque de ma nouvelle enquête. Cette histoire est une fiction, évidemment, et heureusement. Mais nombre d'éléments qui y sont abordés sont vrais, aussi ahurissants puissent-ils paraître. La description que je fais du CDC de l'université Vézal peut sembler directement sortie d'un film d'horreur, mais je vous laisse vous faire une idée par vous-même en tapant quelques mots-clés sur Google, par exemple « scandale CDC ». Vous devriez trouver facilement les références adéquates, et à mon sens, la réalité va encore plus loin que la fiction. Si vous voulez vous rendre compte de la possibilité du système découvert par Charcot et son équipe à la fin du roman, tapez les mots-clés « Brenex »,« Sergei Broukhonenko », »,« Sergio Canavero ». Allez jeter un œil, c'est passionnant et stupéfiant. L'onde de la mort et l'onde de réanimation que je me suis permis de rebaptiser « onde Shelley » ne sont pas sorties des brumes obscures de mon esprit. Elles existent et je vous recommande à ce propos la lecture du très instructif « La science de la résurrection » du professeur Stéphane Charpier, qui a découvert avec son équipe la fameuse onde de réanimation. Son livre m'a accompagné tout au long de l'écriture. J'ai essayé d'être rigoureux lorsqu'il s'agissait de science, d'éthique, de loi ou de procédures policières, et ai pu bénéficier de l'œil bienveillant d'experts qui m'ont aidé à m'immerger dans cette nouvelle enquête. Comme il peut être délicat de les citer en raison du caractère parfois sensible de leur métier, je préfère qu'ils conservent leur anonymat, mais je les remercie ici chaleureusement. Sans ces personnes, écrire une histoire réaliste, crédible, serait beaucoup plus compliqué. Je me suis permis, de temps à autre, de dévier de la pure réalité dans un souci d'efficacité et de rythme. Aussi, les imprécisions ou erreurs qui auraient pu se glisser ça et là dans le roman sont-elles de mon propre fait. Je vous donne également une liste non exhaustive d'ouvrages qui ont servi de source à ce récit. Les vivants et les morts de Jean Ziegler. L'affaire Vincent Lambert d'Ixchel de la Porte. Macabre, traité illustré de la mort de Johanna Ebenstein. La société post-mortelle de Céline Lafontaine. Art à mort de Virginie Luc. L'homme et la mort d'Edgar Morin. La mort de Vladimir Yankelevitch. Un si brillant cerveau de Stephen Lawrence. La vie du cadavre dans les arts visuels contemporains de Sylvia Girel et Izima Kaoru. Technologies of the Human Corpse de John Troyer. Le livre de la mort d'Edouard Ganche. Un recueil de contes macabres absolument effroyable. Et évidemment, l'indétrônable Frankenstein de Mary Shelley, que j'avais déjà lu il y a longtemps, mais que j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir. Ce roman n'existerait pas sans l'accompagnement indéfectible des équipes de Fleuve Édition. En premier lieu, Florian Lafany, mon éditeur, et Amandine Le Goff, qui, chaque fin d'année, se heurte au texte brut et me propose des pistes qui rendent le récit meilleur. Merci à Estelle Revelant pour l'énergie qu'elle déploie à chaque sortie, et ce depuis les premiers jours. À Marie-Annick Ledu et ses préparatrices de choc, notamment Lorraine, qui traquent la moindre coquille et m'apprennent encore les infinies nuances de la langue française. À Thomas Giraud, Julie Buffo, Anne-Sophie Millet, Manon Tassi, et toutes celles et tous ceux qui, de près comme de loin, œuvrent avec passion dans la maison d'édition. J'en profite également pour remercier les équipes des éditions Pocket, qui apportent un second souffle à mes livres et permettent à de nouveaux lecteurs de découvrir mon univers. Et celles des éditions Lizzie, qui donnent une voix aux mots et font de mes histoires une expérience auditive intense. Mes derniers mots seront pour ma femme et mes deux enfants, les piliers de ma vie. Sans eux, rien n'aurait été possible.